Depuis le début du confinement, de plus en plus d'adolescents souffrent de dépression, d'anxiété, de phobie. Les adolescents souffrant de ces troubles vont consulter des spécialistes de la santé mentale. Certains sont poussés par leurs parents et pensent en avoir besoin, d'autres non. Ces derniers mois, les problématiques n'ont pas changé. Ça va de « je me suis fait larguer » à « un signalement ». Mais on voit un net pic de mal-être et d'épuisement. Pour se repérer dans le temps, les jeunes nous parlent du premier confinement, du deuxième. C'est devenu des dates à part entière de leur existence, explique Agnès Greenberg, éducatrice dans l'équipe de la Maison des Ados de Lille, qui suit 800 jeunes par an de 11 à 21 ans. Pour avoir plus d'informations, j'ai décidé de rencontrer deux professionnels de santé, de deux associations, la Maison des Ados des Nabobons et le Sagittaire.
Moi c'est Elodie Brouillet, je suis éducatrice spécialisée du coup au niveau de l'association Le Sagittaire qui se situe à Carvin et plus particulièrement au niveau du point accueil écoute jeunes et parents. Donc pour vous expliquer un peu nos missions, on accueille les jeunes à partir de 12 ans jusqu'à 25-30 ans qui à un moment donné ont besoin de se confier sur des sujets qui sont difficiles à aborder avec l'entourage, que ce soit des difficultés scolaires, difficultés familiales, mal-être. Voilà, un peu toutes les problématiques qu'on peut rencontrer à l'adolescence. On accueille aussi les parents pour des questions relatives à la parentalité. Il faut savoir que notre accueil est gratuit, anonyme et confidentiel. On est situé sur Carvin, mais aussi sur d'autres communes. On a des permanences, en tout cas, sur d'autres communes. Notre territoire d'intervention, sur la communauté d'agglomération des Nains-Carvin, pardon. Donc voilà un petit peu pour la présentation, hein, sachant qu'on est une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a moi-même qui suis éducatrice spécialisée, j'ai une collègue qui est psychologue et une collègue qui est assistante sociale.
Est-ce que vous constatez une augmentation des troubles psychiques chez les jeunes adolescents depuis le confinement ?
Alors oui, effectivement, depuis le confinement, on constate une augmentation des sollicitations au niveau du point accueil écoute jeune, alors plus particulièrement depuis le deuxième confinement. C'est vrai que là, on commence aussi à ressentir les effets du premier et deuxième confinement. Donc on a pas mal de jeunes qui viennent pour des situations de mal-être, aussi beaucoup de harcèlement, du stress aussi lié à la situation sanitaire.
Pourquoi les adolescents ont de plus en plus de troubles mentaux ?
Alors la situation sanitaire a pu aussi entraîner du stress, ça entraîne aussi une incertitude, on ne sait pas vraiment... comment la situation va évoluer, ce qui peut entraîner du stress chez les jeunes, hein, que ce soit les jeunes scolarisés au collège, au lycée ou aussi les étudiants, du fait du confinement, du couvre-feu, des mesures qui sont prises en place. On a aussi constaté que par rapport au premier confinement, il y a eu beaucoup de difficultés scolaires qui se sont créées de par le fait d'avoir les cours à domicile. Hein, c'est pas le même cadre qu'au collège ou au lycée, ce qui entraîne aussi du coup du stress et des angoisses chez les jeunes.
Comment savoir quand son enfant commence à avoir des troubles comme la dépression et autres ?
Alors, il y a différents signes hein, qui peuvent montrer que l'enfant peut avoir des troubles, hein, comme l'isolement, c'est-à-dire que l'adolescent va moins parler, va se renfermer un peu plus sur lui-même, va peut-être plus s'enfermer dans sa chambre, il va non plus y avoir de communication. On peut aussi constater du décrochage scolaire ou de l'agressivité. Alors ça dépend aussi effectivement du contexte aussi, hein, du contexte de pourquoi le jeune est en mal-être. Hein. Ça peut être par exemple lié à du harcèlement où le jeune va pas forcément par exemple vouloir montrer son téléphone aux parents ou c'est vraiment un mal-être lié à d'autres choses. Et à ce moment-là, c'est vraiment du coup l'isolement, le fait de se renfermer sur soi.
Est-ce que les règles sanitaires peuvent détériorer leur équilibre psychique ?
Alors effectivement, hein, comme je disais tout à l'heure, le fait d'une situation sanitaire qui est instable, ça peut générer du stress ou des angoisses. Ça peut être une peur d'attraper le virus, de le transmettre à l'entourage, à des personnes qui peuvent être vulnérables ou non. Donc ça peut avoir quand même un impact assez conséquent sur les jeunes, sur les parents aussi. Hein. On constate aussi des parents qui, par exemple, ont eu... la Covid et qui aujourd'hui ont du mal à avancer parce que ça a été une période assez compliquée pour eux. Donc voilà, ça peut générer pas mal de stress et d'angoisse.
Est-ce que les réseaux sociaux peuvent suffire aux adolescents ?
Alors aujourd'hui, on peut dire que les réseaux sociaux, de toute façon, font partie intégrante de la vie des jeunes. Clairement, au niveau du point écoute, on s'est mis sur les réseaux sociaux pendant le premier confinement pour justement être au plus près des jeunes. Il y a des côtés positifs aux réseaux sociaux où on peut rester en contact avec l'entourage, on peut avoir de l'information, comme des côtés négatifs où il faut faire attention à ce qui se publie sur les réseaux sociaux, il faut faire attention à qui on accepte, aussi aux fake news, il y a pas mal en plus de fake news liées à la situation sanitaire aujourd'hui. On fait d'ailleurs de la prévention au niveau du point écoute sur notre page Facebook, Instagram et TikTok, où justement on parle aussi de tout ça, de ce qu'on peut retrouver sur les réseaux et de ce qui peut être vrai ou pas.
Est-ce que ces troubles mentaux peuvent entraîner au suicide ?
Alors, tout dépend des situations. Il y a des jeunes qui, effectivement, vont être en situation de mal-être et vont avoir du mal à l'exprimer de par différentes problématiques. Hein. Tout à l'heure, je parlais du harcèlement. On en entend de plus en plus parler, le harcèlement et le cyberharcèlement, comme on vient de parler des réseaux sociaux, qui peuvent amener le jeune à des idées suicidaires ou au suicide. C'est pourquoi aussi il faut être vigilant et il faut que les jeunes comprennent que, enfin, en tout cas sachent qu'ils ne sont pas seuls et que les structures comme Le Point Écoute justement sont là pour échanger autour de toutes ces difficultés et justement pour pouvoir les aider à avancer.
Si ces troubles ne sont pas traités, peuvent-ils limiter la possibilité de mener une vie épanouissante ?
Alors, ça dépend aussi du contexte et des troubles. Effectivement, si c'est des jeunes qui ont par exemple des angoisses ou des phobies scolaires, effectivement, ça pourra avoir un impact sur la vie de tous les jours. C'est pourquoi il faut vraiment en parler, même si ça peut être compliqué. Hein. Clairement, c'est compliqué pour les jeunes, effectivement, de passer la porte, par exemple, du point écoute ou de la maison des ados ou d'autres structures qui sont là justement pour accompagner les jeunes. Mais il faut que les jeunes sachent que ça ne peut leur faire que du bien. À un moment donné, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est que on peut accumuler certaines choses, mais on reste humain à un moment donné, et on ne peut pas accumuler trop de choses, trop de mal-être, trop de choses compliquées, parce qu'à un moment donné, forcément, ça explose. Et c'est important, du coup, de pouvoir échanger et de pouvoir mettre des mots sur les mots, au final.
Est-ce qu'un reconfinement total est une bonne chose ou une mauvaise chose ?
Alors, concernant le reconfinement total, alors au niveau sanitaire, tout ça, je pourrais pas m'exprimer parce que je n'ai pas les compétences pour. Maintenant, pour les adolescents, effectivement, si les établissements scolaires ferment, je pense que ça pourrait quand même avoir un impact parce que les cours à distance, ça reste difficile. Nous-mêmes, on le voit au niveau du point écoute, où pendant le premier confinement, on a fait des entretiens en visio par téléphone. Ça reste différent. Il y a toujours un écran qui est là entre eux. C'est pas du présentiel, donc ça reste toujours compliqué. Après, pour me positionner sur le reconfinement total, j'ai pas les capacités, je fais pas partie du gouvernement, mais je pense que ça pourrait avoir en tout cas un impact sur le bien-être des jeunes et des parents.
À partir de quel âge ces troubles interviennent-ils ?
Alors, il n'y a pas forcément d'âge, justement, où les troubles apparaissent. Comme au point écoute, on accueille des jeunes à partir de 12 ans jusqu'à 25-30 ans. Ça peut apparaître à 12 ans comme à 25 ans ou plus jeune. Hein. On a aussi des sollicitations pour des jeunes qui sont en primaire, pour des enfants qui justement sont en mal-être. Pour autant, l'important c'est de pouvoir le repérer et de pouvoir solliciter du coup les professionnels ou l'entourage. Hein. L'entourage peut aussi être un soutien pour les jeunes et pour pouvoir leur permettre d'avancer et surtout de pouvoir s'exprimer.
Comment aider les jeunes dans cette situation et donner des informations pratiques ?
Alors comme je disais, le soutien de l'entourage est très important au niveau des jeunes. Il faut que les jeunes sachent que ils ne sont pas seuls. C'est vrai qu'on a pu entendre ces derniers temps que beaucoup d'étudiants se sentaient seuls parce que eux, ils ont encore les cours à distance et ça peut être compliqué. Il faut savoir qu'il existe des structures qui permettent d'échanger, qui permettent tout simplement de parler. Ce que je dis aux jeunes aussi quand ils viennent au point écoute et que je les ai en entretien, c'est que le moment de l'entretien, c'est vraiment leur moment à eux. C'est un moment pour eux où ils peuvent justement libérer tout ce qu'ils peuvent, euh, tout ce qu'ils peuvent garder en eux et qu'ils ont du mal à exprimer. Donc voilà, c'est vraiment solliciter les professionnels du terrain, hein, les points écoute, les maisons des ados. Il faut savoir que voilà, on est assez développé sur les territoires. Des points écoute, il y en a 4 dans le Pas-de-Calais. Des maisons des ados, il y a la maison des ados des Nains. Il y a aussi le numéro Fil Santé Jeunes qui permet aussi aux jeunes, si c'est en soirée, de pouvoir passer un coup de fil et de pouvoir du coup échanger avec un professionnel. C'est vraiment savoir permettre aux jeunes de pouvoir libérer la parole et pouvoir mettre des mots sur les mots.
Merci à Elodie Brouillet d'avoir répondu à mes questions. Je laisse la parole à Sabrina Franck et Valérie Corbeau.
Alors moi je suis Valérie Corbeau et je suis l'une des 3 psychologues qui exercent au sein de la maison des adolescents.
Bonjour, donc moi je suis Sabrina Franck, je suis éducatrice spécialisée, donc l'une des 2 éducatrices à la maison des ados. Donc la maison des ados, c'est une structure du département qui existe depuis maintenant quelques années à Hénin-Beaumont. C'est une structure qui est dédiée aux ados entre 10 et 21 ans. À tous les ados, il n'y a pas de restriction, qui ont le choix de venir seuls ou accompagnés, que ce soit par des parents, par un ami, par un membre de la famille ou même par un professionnel. Nous, on a à la maison des ados 3 manières d'accueillir les jeunes. Actuellement, on n'en a qu'une seule. Vu le contexte sanitaire, on ne reçoit que sur rendez-vous. Mais habituellement, on a la possibilité aussi de recevoir sur un espace accueil les ados qui veulent venir y passer un moment. Et on a aussi des ateliers. Donc des ateliers qui font partie intégrante de l'accompagnement. Donc c'est les professionnels qui les proposent aux jeunes. Cette maison des ados, du coup, elle se situe à Hénin-Beaumont, en plein centre-ville. Hein, donc elle est assez facile d'accès. Et puis, on est ouvert toute la semaine, du lundi au vendredi, y compris pendant toutes les vacances scolaires. Donc, c'est une structure qui est entièrement gratuite pour tout le monde. Et donc, un ado qui va se présenter avec une demande va être reçu une première fois pour un entretien d'évaluation. Donc, on va aller chercher un petit peu quel besoin il a, quelle demande il a en venant ici. Dans un premier temps, effectivement, on lui présente la maison des ados, comment on fonctionne, ce qu'on peut proposer aussi. Et puis, il va nous parler de sa situation, de ce qui l'amène, de sa demande. Et donc, à la fin, c'est lui qui décide s'il souhaite revenir ou pas. Donc, s'il souhaite revenir, on ne lui propose pas un rendez-vous tout de suite. On en parle d'abord, nous, en réunion d'équipe, parce qu'on est une équipe avec chacun des métiers différents. Donc, on est 2 éducatrices spécialisées. Il y a 3 psychologues, 2 infirmières, 2 diététiciennes. Donc voilà pour l'équipe qui reçoit les ados. Après, on a également... l'animateur, du coup. On a également une secrétaire et une chef de service sur place. Mais donc, pour les professionnels qui reçoivent les ados, c'est assez varié. On a également des professionnels qui font des permanences ici chaque semaine, donc une médiatrice familiale. On a également une permanence du centre de planification. Et puis, une juriste aussi du CIDFF qui vient chaque semaine. Donc, quand l'ado est d'accord pour revenir et qu'on en parle en réunion d'équipe, c'est pour étudier ensemble un peu les propositions qu'on peut faire en fonction de la situation et en fonction de la demande du jeune et des parents, s'ils sont présents aussi. Et donc, en fait, les propositions qu'on fait, c'est un petit peu du sur-mesure, hein, parce que chaque ado est différent, chacun a une histoire différente et une demande différente. Et donc, suite à cette réunion, on va rappeler le jeune ou les parents pour expliquer un peu ce qu'on propose et poser les rendez-vous. Donc ce qu'il faut retenir aussi de la maison des ados, donc comme je disais tout à l'heure, c'est entièrement gratuit, c'est aussi la libre adhésion, donc voilà, c'est le fait que le jeune choisisse s'il veut venir ou pas. Donc ça veut dire que même s'il est orienté par l'école ou par un professionnel, voilà, si l'ado ne souhaite pas bénéficier d'un accompagnement ici, on ne va pas l'obliger. Et ce qui est important aussi chez nous, c'est à la fois le non-jugement, parce qu'on n'est pas là pour leur dire que ce qu'ils font, c'est pas bien. L'idée, c'est vraiment de les mettre en confiance et de pouvoir discuter un petit peu avec eux de ce qui se passe pour pouvoir les aider. Et dernière chose importante aussi, c'est la confidentialité. Donc un jeune qui vient à la maison des ados, voilà, ce qui se dit ici, on lui dit toujours, ça reste ici. On n'a pas à le répéter à qui que ce soit aux professionnels, à l'école ou aux parents. Ceci dit, ils sont toujours informés, dans le cadre de la loi de la protection de l'enfance, que s'il y a une situation de danger ou un risque de danger, nous, on devra en faire quelque chose. Mais on fait toujours les démarches en transparence avec l'adolescent.
Est-ce que vous pouvez donner les chiffres de l'année 2020 ?
Concernant l'année 2020, la Maison des ados a pu accompagner 500 ados. Il faut savoir qu'un accompagnement, c'est entre 3 et 15 rendez-vous. Le contexte sanitaire a pu montrer un allongement de ces prises en charge dans le temps. Donc on est sur des accompagnements qui durent plus longtemps. On a vu une forte augmentation des demandes sur le dernier trimestre de l'année 2020, avec aussi une augmentation des demandes chez les plus de 18 ans, ce qui n'était pas le cas en 2019. Et un tiers des problématiques qu'on peut rencontrer ici concernent le mal-être, et viennent ensuite l'anxiété et le vécu traumatique. Et sur les deux premiers mois de l'année 2021, on a pu voir vraiment une forte augmentation des demandes comparativement à l'année 2020.
Ces troubles interviennent-ils à partir de quel âge ?
Alors nous, à la Maison des ados, on va accompagner des jeunes qui ont entre 10 et 21 ans. Ce qu'on a pu voir sur les dernières demandes, c'est que il n'y avait pas vraiment de différence au niveau des âges. Donc on va avoir des petits qui ont 10-11 ans, on va avoir la tranche d'âge 13-15 qui est aussi touchée. Et au-delà, on ne voit pas aujourd'hui de différence entre les jeunes.
Au final, effectivement, quel que soit l'âge, il y a un impact plus ou moins chez tout le monde, mais c'est juste que chacun va réagir à sa manière et ça va s'exprimer différemment en fonction de l'âge, mais aussi en fonction de la personne et de son histoire.
Cela peut-il entraîner au suicide ?
Donc nous, le premier contact se fait par téléphone si on est vraiment sur une situation urgente où on va être sur des idées noires, des idéations suicidaires. On va d'office réorienter vers le médecin traitant, vers le CMP ou vers les urgences. Et on interviendra en deuxième intention quand les autres professionnels auront pu évaluer ce risque. Maintenant, oui, on rencontre des jeunes qui ont des idées suicidaires, des jeunes qui peuvent présenter aussi des épisodes d'automutilation. On a vraiment un mal-être qui va aller de je ne vois pas ma famille ou je ne vois pas mes amis à je ne sais pas pourquoi il faut continuer de vivre. Voilà, on va vraiment avoir ce grand spectre au niveau de la problématique du mal-être chez les jeunes aujourd'hui.
Est-ce que les règles sanitaires et le confinement peuvent détériorer leur équilibre psychique ?
Alors effectivement, on peut pas nier qu'on vit une période assez inédite et que ça a un impact chez chacun. Alors chacun le vit à sa manière. Effectivement, on a pu rencontrer des ados aussi après le premier confinement qui finalement l'avaient très bien vécu. Parce que si c'était compliqué à l'école, c'était peut-être aussi agréable de travailler les cours à la maison, etc. Il y en a qui l'ont beaucoup moins bien vécu plein de raisons diverses finalement. Mais dans tous les cas, on sent vraiment un impact. Et puis même si l'impact est parfois un peu positif de se dire finalement c'est agréable d'avoir une période sans aller à l'école, il y a après le retour aussi à l'école qui peut être compliqué. Donc l'impact peut être là à cause de plein de raisons différentes finalement. Que ce soit en termes de manque de contacts sociaux. On voit aussi des jeunes qui vivent pas très bien le fait de ne plus pouvoir faire de sport, de ne plus pouvoir aller au club de sport, de peut-être moins voir la famille aussi, parce qu'on est dans une période où c'est un peu plus compliqué d'aller voir les grands-parents sereinement, par exemple. Et puis, il y a aussi les écrans qui sont omniprésents. Donc, avec ses avantages et ses inconvénients, parce qu'on est dans une période où on nous demande aussi, finalement, de faire plein de choses sur les écrans. Donc, il y a plus de travail scolaire via les écrans, de loisirs, de contacts sociaux, parfois de sport. Donc, on les utilise beaucoup plus. Donc, on a peut-être aussi un peu tendance à être un peu plus renfermé qu'à notre habitude. Donc, tout ça, ça va avoir un impact. Aussi, être enfermé à la maison, parfois avec les frères, les sœurs, les parents, les beaux-parents. Voilà, quand dans la famille, on a des parents ou des beaux-parents qui restent à la maison en télétravail, alors que d'habitude, on ne se voit pas forcément la journée, on se retrouve que le soir, bah, parfois, ça peut créer des tensions aussi. Donc tout ça, ça va avoir un impact et ça va parfois, alors peut-être pas toujours créer, mais au moins peut-être amplifier des difficultés qui sont déjà là.
Le confinement a aussi amené les ados à s'ennuyer, ce qu'ils fuient généralement, le plus généralement, hein, l'adolescent fuit l'ennui. Et finalement, ce confinement, ce couvre-feu les amène à avoir des périodes d'introspection, à réfléchir sur eux-mêmes. Et ces périodes vont aussi ouvrir à beaucoup de questionnements, à des reviviscences d'événements qui ont été compliqués par le passé et qu'ils souhaitaient oublier. Donc on a aussi des ados qui viennent en disant bah « voilà, moi je me suis retrouvée seule avec moi-même et je me rends compte que j'aurais besoin d'aide sur telle ou telle thématique ». Et juste pour ajouter aussi que finalement, on le voit aussi nous au niveau des chiffres, c'est qu'on a vraiment eu une forte demande suite au confinement.
Est-ce que les réseaux sociaux peuvent suffire aux adolescents ?
Il y a des ados qui vont être très bien comme ça et qui vont justement se contenter des réseaux sociaux parce que aussi quand on n'a pas de très bonne relation avec les autres, parfois c'est plus pratique de communiquer par les réseaux sociaux, d'être derrière son écran. Je pense aussi notamment à des jeunes qui vivent parfois du harcèlement. Alors parfois c'est un peu plus pratique, même s'il peut y avoir aussi derrière du cyberharcèlement. Il y en a d'autres aussi qui vont le vivre moins bien et qui, au-delà d'être sur les réseaux sociaux, vont avoir aussi besoin de faire comme ils ont l'habitude, c'est-à-dire le week-end ou les vacances, sortir, voir les copains, tout ça, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc effectivement, ça peut être vu un peu comme un palliatif, mais effectivement, ça remplacera jamais le contact humain, effectivement.
Et puis il y a quelque chose qui reste très compliqué virtuellement pour nos jeunes, c'est les relations amoureuses. C'est ce qui revient régulièrement, c'est que alors les réseaux sociaux c'est une habitude pour eux et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de contacts virtuels. Maintenant pour ce qui est d'avoir un petit copain, une petite copine, virtuellement ils atteignent vite leurs limites et c'est des choses qu'ils peuvent nous renvoyer. C'est que moi j'ai envie de le ou de la voir, de passer un moment ensemble, mais en ce moment c'est compliqué ou impossible.
Je voulais ajouter aussi, en termes de contacts sociaux, du coup, ce qui est compliqué aussi, c'est que finalement, les ados, même quand ils se voient en vrai, j'ai envie de dire, à l'école, bien souvent, c'est essentiellement avec sa classe. Parce que comme on ne peut pas trop se mélanger, on ne peut pas trop brasser les élèves, ça, c'est aussi compliqué. Alors, du coup, tout dépend aussi de la classe qu'on a. Est-ce qu'on a des amis dans la classe ou pas ? Est-ce que ça se passe bien ou pas avec les autres personnes de la classe ? Donc ça peut être compliqué aussi dans certains cas.
Comment savoir quand son enfant commence à avoir des troubles comme la dépression et autres ?
Alors, sans aller jusqu'à parler de dépression en elle-même, parce que nous, c'est vrai qu'on ne pose pas de diagnostic, hein, mais nous, on essaie de faire attention un petit peu aux indicateurs qui peuvent alerter. Et du coup, c'est ce que les parents peuvent faire aussi, observer s'il y a des changements à certains niveaux. Alors, généralement, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est est-ce qu'il y a des difficultés au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation aussi, une perte d'appétit, par exemple, ou alors beaucoup, beaucoup de grignotage, ça peut être un signe aussi, hein, à l'inverse. Ça va être aussi est-ce que l'ado se renferme un peu plus que d'habitude, est-ce qu'il y a vraiment des changements de comportement, que ça peut être de l'agressivité ou alors une tendance à s'isoler, en tous les cas un changement qui se remarque. Ça peut être aussi une perte de motivation, voilà, mais vraiment dans l'ensemble des changements qui se remarquent.
Ce qui va être aussi très important, c'est de pouvoir continuer de communiquer en famille, hein, puisque c'est vrai que les ados ne vont pas bien, je pense que les adultes ne vivent pas très bien la situation non plus. Donc de pouvoir en échanger, de se dire comment on vit les choses, d'essayer de communiquer avec son ado, et puis de lui laisser une porte ouverte qui est si tu n'as pas envie d'en parler avec moi, on peut aller rencontrer des professionnels pour que tu aies ton espace et que tu puisses discuter de ce dont tu as envie avec des professionnels.
Si ces troubles ne sont pas traités, peuvent-ils limiter la possibilité de mener une vie épanouissante ?
Alors forcément que cette période que nous sommes en train de vivre va avoir un impact alors sur toute la population, mais aussi sur les adolescents, puisqu'ils sont en cours de construction. Ils sont en train de voir l'enfant qu'ils étaient hier et l'adulte qu'ils vont devenir demain. Ça va avoir un impact, puisque ça touche, ça va toucher le domaine scolaire, le domaine sportif, le domaine amical. Donc on va avoir une vigilance chez ces adolescents. Maintenant, voilà, s'ils sont bien entourés, s'ils savent aussi se saisir des aides qui peuvent leur être apportées, si nous aussi, en tant qu'adultes, on respecte le bon moment, un adolescent peut aller mal et ne pas avoir envie d'en discuter là, maintenant, tout de suite. Je pense que si toutes ces conditions arrivent à être respectées, on ne peut pas dire que voilà, les ados d'aujourd'hui seront des adultes en dépression demain, mais il faut qu'on reste, nous, adultes, vigilants à leur construction, à leur bien-être et à leur développement aussi, tout simplement.
Comment aider les jeunes adolescents et comment vous joindre ?
Alors, comment aider ? Comme disait ma collègue tout à l'heure, déjà, le fait d'instaurer un dialogue et d'ouvrir une porte aussi pour qu'ils puissent s'exprimer quand ils le souhaitent et s'ils en ont besoin, déjà, c'est quelque chose d'important, leur laisser déjà cette possibilité. Ça peut être aussi les orienter vers des professionnels ou vers des structures dont ils peuvent avoir besoin et qui pourraient les aider. Alors, je dis des structures en général parce que y a nous, Maison des Ados, mais pas que. Parfois, le premier contact peut être apporté dans l'établissement scolaire. Je pense aux infirmières scolaires, aux assistantes sociales aussi des établissements, qui sont bien souvent aussi le premier contact quand ça va pas et quand on est un peu trop envahi par ce qui se passe. Voilà, ça arrive régulièrement que les ados aient besoin de sortir de cours pour pouvoir un peu respirer, s'exprimer et puis avoir déjà un peu un premier espace de parole. L'essentiel, c'est qu'ils puissent discuter avec une personne en qui ils auront confiance. Donc après, j'ai envie de dire, peu importe que ce soit le professionnel au sein de l'établissement ou que ce soit un professionnel extérieur ou que ce soit les parents. Après, ça dépend de chacun et de la relation de chacun. Donc pour nous contacter, on est joignable par téléphone, donc au 03 2 x 21 79 00, donc essentiellement par téléphone. Et puis on a aussi une page Facebook qui s'appelle Maison des Ados de l'Artois, donc sur laquelle on partage des articles, des informations liées à l'adolescence et puis aussi des petites choses sur ce qui se passe aussi à la Maison des Ados. Et donc on est joignable aussi par message privé sur cette page.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Alors pour conclure, j'ajouterais que finalement, tout le monde à un moment donné peut avoir besoin d'aide. Donc finalement, ça ne coûte pas grand-chose de pousser la porte de la Maison des Ados et un premier rendez-vous n'engage à rien. L'idée, c'est un peu de venir voir ce que c'est et puis voilà, après c'est l'ado qui décide.
C'était Sabrina Franck et Valérie Corbeau de la Maison des Ados, précédée par Élodie Brouillet du Sagittaire qui nous parlait de la santé mentale des adolescents en temps de confinement.